RFI, grand reportage.
Je pense que la décriminalisation est vraiment une bonne chose, parce que maintenant, chaque femme peut avoir une assurance, se faire soigner si besoin, mais aussi accéder à un prêt bancaire pour acheter quelque chose, pour se construire un futur.
Peut-on considérer la prostitution comme un métier ? En Belgique, la réponse est oui. Le Royaume est devenu en 2022 le deuxième pays au monde, après la Nouvelle-Zélande, à décriminaliser le travail du sexe, une politique particulièrement souple qui permet aux travailleuses et aux travailleurs du sexe d'exercer en toute légalité, avec un statut d'auto-entrepreneur et de bénéficier de droits sociaux. Les prostituées, qui sont très majoritairement des femmes, pourraient même, à terme, devenir salariées. Belgique, faire de la prostitution un métier presque comme les autres, c'est un grand reportage de Laure Broulard.
Nous sommes rue d'Arscott, en face de la gare du Nord à Bruxelles. Ici, la prostitution a pignon sur rue depuis des années. Assises derrière des dizaines de vitrines, des travailleuses du sexe en sous-vêtements et talons hauts attendent les clients. Entre deux bars à hôtesses, on pousse la porte des locaux d'Utsopi et Espace P. Ces deux associations défendent les droits des personnes prostituées. Elles ont été en première ligne de la lutte pour la décriminalisation.
Là, on est dans les locaux d'Utsopi qu'on partage avec Espace P, donc, qui reçoit pour des permanences ici.
Marianne Chargois, travailleuse du sexe, artiste performeuse et membre d'Utsopi.
La décriminalisation, il faut le voir comme quelque chose qui n'est pas en soi un événement législatif qui va changer du jour au lendemain la réalité. Des travailleurs du sexe, il faut le comprendre comme un verrou qui saute et qui permet de pouvoir donner une place tout simplement à toute une catégorie de la population qui vend des services sexuels pour vivre. L'État belge vient dire que nous méritons de la protection, que nous méritons d'être respectés, d'être considérés. Et c'est ça que vient dire en fait ce changement législatif aussi.
Avant la décriminalisation, les TDS n'avaient d'autre option que de travailler au noir ou en tant que masseuse ou serveuse. Elles ne risquaient pas d'être poursuivies, mais tous ceux qui faisaient affaire avec elles, comme les assureurs, les chauffeurs, les comptables ou encore les web designers, pouvaient être assimilés à des proxénètes et punis. Tout comme les propriétaires des vitrines qui louent leurs locaux aux prostituées, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il est possible, en tout cas théoriquement, de louer officiellement un espace de travail pour du travail du sexe. Avant la loi, ce n'était pas le cas, puisque un propriétaire qui louait un espace dédié à cette activité était considéré comme proxénète. Et donc, ça poussait donc à tout un tas de fonctionnements sur le côté, par-dessous, et donc qui donnait lieu à beaucoup d'abus, du coup, ce qu'on appelle le profit anormal, donc louer des espaces de travail à des prix démesurés, en fait, pour ce que c'est, etc.
Ah bon, je vous entends.
Ici, les prostituées du quartier peuvent venir chercher une aide juridique ou des produits sanitaires. Elles sont toutes les bienvenues, qu'elles soient régulières ou occasionnelles, avec ou sans papier, des femmes, mais aussi des hommes et des personnes transsexuelles, travaillant dans la rue, chez elles ou dans des Airbnb, en tant qu'indépendantes, mais aussi parfois exploitées par des proxénètes ou victimes de réseaux de traite.
Bonjour.
Dan Bowens, le directeur d'Utsopi, est assis dans le bureau d'à côté.
La décriminalisation, en fait, c'est le but de chaque mouvement par et pour travailleurs, travailleuses du sexe. En fait, parce que dans beaucoup de pays, le travail du sexe est illégal, comme aux États-Unis. Mais dans d'autres pays, le travail du sexe en soi n'est pas illégal, mais il est rendu complètement impossible, comme en France et comme en Suède. Par exemple, en criminalisant le client. Donc ça veut dire que la TDS ne peut plus faire son travail dans un établissement, plutôt dans les parcs, sur les parkings et dans la rue. En fait, en gros, on voit que dans chaque pays où une partie du travail du sexe ou le travail du sexe lui-même a été criminalisé, en fait, on voit que ça a toujours des conséquences, disons, affreuses pour les travailleurs et travailleuses du sexe.
Sous l'impulsion de plusieurs partis, d'associations et d'experts, le pays a donc choisi de décriminaliser le secteur. Secteur qui compte entre 3 000 et plus de 20 000 personnes selon les estimations. Les prostituées peuvent donc désormais déclarer leur activité et bénéficier d'une assurance maladie, de la retraite ou encore du congé maternité. En parallèle, les peines sanctionnant le proxénétisme, soit l'exploitation des travailleuses du sexe, ont été alourdies. Retour dans la rue, en face de la gare du Nord de Bruxelles. Une zone occupée par des jeunes femmes venues d'Europe de l'Est. Elles sont assises à 2 ou 3 par vitrine, sur des tabourets ou des chaises hautes. La plupart refusent catégoriquement les interviews. Celles qui acceptent de parler hors micro ne semblent pas au courant des changements liés à la décriminalisation. Deux rues plus loin, Muriel est sortie sur le pas de sa porte. C'est l'une des dernières travailleuses du sexe belge du quartier.
Muriel, c'est moi, oui.
Et vous avez quel âge ?
69.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici dans le quartier ?
Dans le quartier Nord. J'ai commencé derrière le Sheraton, j'avais 18 ans.
Elle a travaillé presque toute sa vie au noir, seulement déclarée comme masseuse pendant quelques temps. Pas assez donc pour avoir une retraite décente. Alors elle continue à recevoir des clients dans son carré. C'est ainsi qu'on appelle la petite pièce donnant directement sur la rue qu'elle loue pour quelques centaines d'euros par mois. À l'arrière, le lit est caché par un rideau noir. Quand on lui parle de décriminalisation, elle est sceptique. Pour elle, l'accès aux droits sociaux est une bonne nouvelle, mais pas forcément le statut officiel.
Qui nous laisse notre petite vie comme on a toujours été. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, ce qui est discret, on est heureux. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour être heureux, il faut vivre caché. C'est comme ça ! C'est triste à dire, pour nous, mais c'est ce qu'il y a de mieux, je crois, qui nous fout la paix. Si tu fais la pute, c'est pour être justement en dehors de tout ce qui est les règles. Tu n'es pas là pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Donc tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai commencé ce métier, j'avais donc moins que 18 ans. Faire ce que je voulais. Tu vas au fond ? Eh ben, madame, ça. Va au fond. Oui, va.
Un client souhaite entrer, Muriel m'invite à partir. De l'autre côté de la rue, les carrés sont majoritairement occupés par des Nigérianes, des femmes particulièrement vulnérables car sans papier et souvent victimes de réseaux de traite très structurés.
Quand on parle de réseau de prostitution, c'est un terme un peu générique mais qui recouvre une multitude de situations.
Sophie Jekeller est directrice de la Fondation Samilia, une association qui lutte contre la traite des êtres humains en Belgique.
Ça peut partir effectivement des réseaux hyper organisés, des réseaux basés sur les techniques vaudou qui sont organisés à partir du Nigeria principalement et qui contraignent par la peur et par les croyances des jeunes filles à venir se prostituer ici à Bruxelles. Ce sont des réseaux sud-américains dont on voit le développement de plus en plus important, avec certaines particularités comme par exemple à partir de l'Équateur des personnes transsexuelles qui sont acheminées en Belgique pour être exploitées dans la prostitution. Et là, ce sont des réseaux organisés. Par contre, on assiste en Belgique maintenant de plus en plus au phénomène des lover boys, qui sont des garçons jeunes ou pas jeunes, qui séduisent des jeunes filles dans le but de les exploiter sexuellement et donc par des discours amoureux, les amener à se prostituer à leur profit.
Il est donc parfois difficile de tracer une ligne claire entre ce qui relève de l'exploitation ou non. Selon Sophie Jekeller, la décriminalisation pourrait donc ouvrir la porte à davantage d'abus. La Fondation Samilia estime qu'en Belgique, une jeune fille sur 3 a déjà été approchée en vue de services sexuels tarifés. Autre point d'inquiétude, le sort des prostituées qui ne pourront pas prétendre à un permis de travail.
Oui, notre inquiétude principale, c'est l'impact de cette loi sur la traite des êtres humains, puisqu'il faudra un permis de travail, forcément, pour travailler dans ces établissements-là, que les personnes qui viennent, comme je vous l'ai dit, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, n'ont pas de permis de travail. Qu'est-ce qu'il adviendra ? Est-ce qu'elles obtiendront un permis de travail pour travailler exclusivement dans le domaine du sexe en Belgique ? Est-ce qu'elles n'en recevront pas, mais devront travailler de manière clandestine ? Et là, elles seront d'autant plus victimes de réseaux de prostitution. Tout ça, ce sont des questions à apprécier.
Des inquiétudes partagées par certaines associations féministes pour qui la prostitution est toujours une exploitation et une conséquence du système patriarcal. Mais pour les défenseurs de la décriminalisation, il s'agit surtout de protéger les travailleuses du sexe, de leur permettre d'exercer dans un cadre plus sécurisé, de se tourner plus facilement vers la police en cas d'abus. Car reconnaître le secteur, c'est aussi lui imposer des règles. Reste que selon les spécialistes, il faudra attendre plusieurs années avant de pouvoir en estimer les effets. Le 17 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. À Bruxelles, chaque année, les associations organisent une manifestation dans le quartier Nord, un quartier de prostitution, mais aussi un quartier pauvre qui concentre des problèmes de drogue, d'insécurité et de nombreux individus en errance. Dans le cortège, une centaine de TDS et des personnes venues les soutenir. Le mot d'ordre, « Sex work is work », le travail du sexe est un travail. Sex work is work. Le cortège s'arrête devant l'ancienne vitrine de Nice au Sayandé. Cette travailleuse du sexe nigériane de 23 ans, victime de traite des êtres humains, qui a été violemment assassinée par un client en 2018.
On est en train de distribuer les bougies, de les allumer.
Les manifestants allument des bougies pour un moment de recueillement avant des prises de parole.
Nous avons fait une minute de silence pour Eunice, qu'on ne veut jamais oublier, car comme elle a été oubliée par la société. La sécurité des travailleuses du sexe reste un enjeu majeur à défendre. Bien que la réforme de la loi pénale en 2022 ait été une étape importante, cette situation ne va pas être résolue avec la décriminalisation seulement. Il nous reste encore de nombreux combats à mener. La violence n'est pas un risque du métier. C'est précisément ce stéréotype qui témoigne du mépris à l'égard des TDS, des travailleurs et travailleuses du sexe.
Kido, travailleuse du sexe française de 27 ans, est dans le cortège.
Au niveau social, je ne vais pas toujours dire mon métier parce que je sais que les gens peuvent devenir violents ou malveillants envers moi. Quand c'est par exemple des refus de soins ou des mauvais soins, c'est parce que j'ai dit que je faisais tel travail, du coup on ne va pas vouloir me soigner, on va le faire mal. Ça m'est déjà arrivé avec des médecins. Et j'ai eu des soucis de logement aussi, j'ai déjà été virée de chez moi parce que je n'avais pas de protection. Avec mon statut de TDS, j'avais une situation vulnérable parce que je n'avais pas de fiche de paye, par exemple. J'avais accès qu'à des sous-locations, des choses comme ça. Et donc forcément, c'est plus vulnérabilisant. Et il n'y a pas de droit au logement qui s'applique dans des logements précaires, par exemple.
La décriminalisation est l'un des facteurs qui l'a poussé à venir s'installer en Belgique.
Ouais, c'est moins stigmatisé, en fait. Après, c'est mon ressenti en venant de France où vraiment là, c'est de pire en pire au niveau des conditions de travail. Et c'est un des facteurs qui m'a fait dire que bon, il y avait un feu vert là-dessus, que je pouvais exercer de manière plus sécurisée ici, quoi.
Mais Manon, quant à elle, parle de discrimination et de violences récurrentes.
Des violences, oui, bien sûr. J'ai perdu la garde de mes enfants, notamment. Alors qu'ici, en Belgique, le travail du sexe n'est pas pénalisé comme en France. Ça n'a pas empêché une juge de décider que ce n'était pas un métier compatible avec la garde d'enfants, dont des violences quand on porte plainte à la police, où on se retrouve simplement avec nos plaintes qui sont reclassées de viol à attentat à la pudeur, les stigmates en permanence et la honte.
De l'autre côté de la frontière linguistique, en Flandre, la situation est bien différente. Le quartier rouge d'Anvers, appelé quartier des marins, est ultra sécurisé, truffé de caméras de surveillance. Ici, la municipalité n'a pas attendu la décriminalisation pour reconnaître et encadrer le travail du sexe. Dès la fin des années 90, la ville a décidé de concentrer toutes les vitrines dans trois rues piétonnes et de mettre sur pied une unité de la police locale entièrement dédiée à la prostitution, une équipe unique en son genre en Belgique. Willem Migom, porte-parole de la police d'Anvers.
Nous avons décidé de ne plus lutter contre le travail du sexe, mais plutôt de le réguler. Nous nous concentrons donc sur la sécurité des travailleuses du sexe en premier lieu, mais aussi sur celle des habitants et des clients. Toute travailleuse du sexe qui se lance à Anvers est contrôlée par l'équipe prostitution. Nous vérifions qu'il n'y a aucun signe d'exploitation, que la femme est majeure, qu'elle a décidé d'elle-même de faire cette activité, qu'elle ne suit subit pas de pression, qu'on ne la force pas à avoir des rapports non protégés, par exemple. Nous contrôlons également les propriétaires des vitrines. pour être sûr qu'ils ne sont pas liés à des groupes criminels. Tous les espaces dédiés à la prostitution à Anvers doivent également respecter des normes d'hygiène. Les matelas doivent être recouverts d'une housse en plastique lavable. Il doit y avoir des préservatifs à disposition et des boutons d'alarme sur lesquels les TDS peuvent appuyer en cas de problème.
Bonjour, nous sommes ici au Villa Pinto à Anvers. Nous l'appelons « The House of Pleasure ». C'est aussi marqué sur la façade à l'entrée du Ververstraat.
Avec son costume tiré à quatre épingles et son collier de perles, Karine van der Hel statue d'une femme d'affaires comme les autres. Elle est pourtant propriétaire de l'établissement le plus connu et le plus imposant du quartier rouge d'Anvers. La Villa Tinto, avec ses 51 vitrines occupées nuit et jour par des travailleuses du sexe, sa cour et ses allées intérieures, et même une antenne du commissariat local. Il y a plus de 20 ans, c'est la municipalité qui lui a proposé de dédier son immeuble à la prostitution. Les travailleuses du sexe peuvent y louer une vitrine avec une chambre attenante pour des cycles de 10 heures et pour une centaine d'euros.
So my name is Laure. Laure from Laura. Exactly.
On voulait leur permettre de travailler dans un bel immeuble, un immeuble propre, sécurisé. Toute personne qui a des papiers européens et qui est majeure peut travailler ici. Chacune doit nous donner une copie de ses papiers d'identité, mais nous prenons aussi une empreinte digitale. Et c'est avec cette empreinte qu'elles peuvent accéder à la chambre, allumer la lumière et le chauffage. Et elles doivent remettre leur empreinte toutes les heures, ce qui assure qu'elles ne peuvent pas mettre une autre fille à leur place en vitrine.
Karine van der Elst soutient la décriminalisation. Elle aide d'ailleurs les travailleuses du sexe qui louent ces chambres à se déclarer comme auto-entrepreneuses. Mais selon elle, la réforme du code pénal n'a pas encore porté tous ses fruits, puisque les banques, notamment, continuent à être réticentes à octroyer des prêts aux TDS.
Il va falloir attendre encore un peu avant de voir ce que la loi va vraiment changer. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que notre activité n'est plus illégale. Avant, il y avait un sentiment négatif autour de ce business, puisque même s'il était toléré, il était considéré comme illégal. Et pourtant, nous l'avons toujours fait avec les meilleurs sentiments et nous avons construit un commerce correct. Mais c'était quand même considéré comme criminel.
À l'étage du dessous, Mistress Kiana, de son nom de scène, est installée derrière sa vitrine. Cheveux teints en rouge, longs cils noirs et visage tatoué, cette Roumaine de 30 ans vient travailler ici tous les jours depuis plusieurs années.
J'ai travaillé dans différents endroits. J'ai travaillé en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et puis ailleurs en Belgique. Mais ici, je trouve que c'est le mieux. Parce que la Villa Tinto nous donne la possibilité d'être seuls derrière une vitrine et d'avoir une chambre individuelle. Et puis, nous avons des boutons d'alarme à côté de la vitrine, au premier étage à côté du lit, et puis aussi dans la salle de bain. Si on appuie dessus, la police vient très vite. Et puis, la location n'est pas trop chère, donc ça fonctionne bien pour moi. Et puis aussi, on se sent bien ici. Il y a une bonne atmosphère. C'est comme une petite famille.
It's like a small family. Elle est désormais déclarée sous le statut d'indépendante, soit auto-entrepreneuse.
Yes, it's a bit complicated in the beginning.
Le statut est un peu compliqué au début car on ne connaît pas bien le système. L'aspect comptable est très important. Mais je suis très contente de l'avoir fait, puisque maintenant j'ai une assurance et pour ma santé, c'est très important. Si j'ai un problème, je veux pouvoir aller à l'hôpital et avoir toutes les prestations sociales. Donc je pense que la décriminalisation est vraiment une bonne chose, parce que maintenant, chaque femme peut avoir une assurance, se faire soigner si besoin, mais aussi accéder à un prêt bancaire pour acheter quelque chose, pour se construire un futur. Je crois que la plupart des travailleuses du sexe veulent construire quelque chose pour elles-mêmes. Et si on choisit de faire cette activité, ça doit vouloir dire qu'on veut aussi le faire de manière légale, même si pour ça il va falloir payer des impôts. C'est comme pour les autres métiers, payer ses impôts, avoir une vie normale, quoi.
Tout autour, elles sont encore nombreuses à travailler au noir. Mais selon la propriétaire, beaucoup envisagent désormais de se déclarer. Le modèle anversois fait en tout cas des émules en Belgique. La ville d'Ostende, sur la côte, a ainsi demandé à Karine van der Elst d'y ouvrir une Villa Tinto.
Belgique, faire de la prostitution un métier presque comme les autres. Un grand reportage de Laure Broulard, réalisation Eva Piedel.